le cadre des élections européennes qui vont pas tarder à nous arriver, n'est-ce pas ? Sur Radio FM+, nous vous proposons de rencontrer Monsieur Guy Guyot, qui va nous parler un petit peu d'un sujet particulier qui est le syndicalisme. Monsieur Guy Guyot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable CFDT, c'est cela ?
Oui, tout à fait, oui.
Dans quel cadre ? Local, national ?
Bien, j'ai eu les différentes responsabilités assez longtemps d'ailleurs. Disons, au niveau de ma carrière syndicale, j'ai été responsable national au niveau de la CFDT, DDF et GDF. Et j'ai représenté la CFDT dans les années, début des années 80, la CFDT au conseil d'administration DDF. Voilà, et puis ensuite au niveau régional, c'est à partir de la fin des années 90, j'ai été membre de l'équipe régionale et secrétaire de l'Union départementale de l'Hérault. Et j'ai représenté la CFDT avec d'autres CFDT au Conseil économique et social régional Languedoc-Roussillon.
Alors, on va venir, donc tout ça c'est du franco-français.
Tout à fait.
Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est le côté européen, nous, ici.
Absolument, oui.
Et donc, est-ce que, première question, l'Europe sociale, en quoi peut-elle relever de la compétence de l'Union européenne et de ses institutions ?
Voilà, bien, tout à fait. C'est un sujet très très important et qui a été posé au moment de la création de l'Union européenne, puisque l'Europe sociale est entrée en quelque sorte au niveau institutionnel avec la création en 1957 du Comité économique et social européen. Avec l'adoption de la Charte des droits fondamentaux en 1989, la création du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle en 1975, la création d'une fondation pour l'amélioration des conditions de vie au travail en 1976, et la reconnaissance du rôle du dialogue social et des partenaires sociaux dans les traités, aussi bien le traité de la CECA, hein, du charbon et de l'acier, la Communauté européenne, en 1952, l'acte unique en 1987, le traité de Maastricht en 1992 et le traité de Lisbonne en 2009. Donc ça a bien figuré au niveau des textes. Et le problème, ça a été évidemment les articulations entre tout le travail de proposition, de réflexion que faisaient les organisations syndicales. Alors, quand je parle d'organisations syndicales, c'est aussi bien des salariés, des travailleurs, qu'au niveau patronal.
Alors, justement, moi, là-dessus, je vous poser une petite question, parce qu'on entend dire beaucoup qu'il n'y a pas d'unité européenne au niveau, pas syndicaliste, mais au niveau des droits des travailleurs. Je pense aux chauffeurs routiers, en particulier. Hein, mais on peut aussi citer bien d'autres exemples, le temps de travail. Est-ce que tout ça, on est quand même dans un flou total au niveau européen ?
Ce n'est pas un flou européen, c'est le problème du délai historique pour arriver à ajuster les niveaux sociaux en rapport avec les niveaux économiques de l'ensemble des pays qui ont adhéré au fur et à mesure à l'Union européenne.
Oui,
je donnerai un exemple au niveau du SMIC européen, enfin du SMIC au niveau de chaque État. Ça varie pratiquement dans le rapport 300 euros à 1000, 1400 euros. Donc aujourd'hui, définir un SMIC européen, ce n'est pas possible. On est trop loin les uns des autres. Et donc là, il y a un processus qui doit se faire le plus rapidement possible. Pour nous, syndicalistes, on trouve que ça va très lentement, mais qu'il y a un travail énorme pour arriver à mettre à niveau et ne pas laisser des, par rapport même au texte de principe pour une égalité au niveau des travailleurs, de laisser la place à des dérogations et des contournements des directives européennes éventuelles qui ont pu être venues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a tout un travail en complément de ce qui peut être fait par rapport aux institutions européennes, du dialogue direct entre les organisations syndicales rassemblées aujourd'hui dans la Confédération européenne des syndicats et le patronat qui lui-même est divisé et pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde au niveau de l'ensemble des pays européens.
Alors par exemple, effectivement, on peut citer par exemple quand l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne, elle accusait un retard considérable par rapport aux autres pays et maintenant ce retard, elle l'a rattrapé.
Oui.
Alors maintenant, le problème se pose effectivement sur les derniers pays entrants, hein, où là, effectivement, le temps de mise en route peut être plus long. Je ne prendrai qu'un exemple, par exemple, la carte de sécurité sociale européenne. Aujourd'hui, on l'a tous dans nos poches, quand on va dans un pays autre que la France. Et pourtant, c'est plus de 5 ans de travail pour la mettre en place, uniquement sur ce document-là.
Tout à fait, oui, oui.
Alors... effectivement, donc voilà effectivement qui remet un petit peu les choses en place. Et j'aurais une question, comment les acteurs sociaux, et notamment la Confédération européenne des syndicats dont vous venez de parler, interviennent-ils pour faire avancer l'Europe sociale ?
Alors, cette Confédération européenne des syndicats, elle regroupe déjà une force importante puisqu'elle a 45 millions de membres. Sur 140 millions de salariés. Donc, c'est pas encore.
C'est quand même pas rien.
La moitié, mais c'est quand même pas rien. Et même si on se plante, bien sûr, les situations de chaque pays sont très différentes les unes des autres. Au niveau de la France, le syndicalisme, il est relativement dispersé. Mais les 5 organisations dites représentatives au niveau de la France, à savoir la CFDT, la CGT, Force ouvrière, la CFTC et les cadres sont représentés au sein de la Confédération européenne des syndicats. Donc il y a déjà un regroupement important qui permet de pouvoir faire avancer les revendications. On a depuis 2-3 ans mis en avant la notion de socle de droits fondamentaux des travailleurs au niveau européen. Et là aussi, bien, il a fallu un certain nombre d'années avant qu'il y ait un consensus et que ça puisse être reconnu au niveau de l'Europe, puisqu'il y a un certain nombre de revendications et qui doivent être ensuite traduites sous la forme de directives européennes. Et suivant les thèmes, parfois, ça vient en contradiction avec la volonté de certains groupes d'influence, de multinationales, oui, pour ne pas les nommer, par rapport notamment à l'aspect des conditions de travail et au respect des normes, aussi bien à l'intérieur des entreprises que par rapport à leur environnement.
Et puis, c'est vrai que l'Union européenne ne s'est pas créée du jour au lendemain, puisque chaque pays a fait évoluer ses législations en interne en fonction de ses propres façons de voir les choses. Et donc, aujourd'hui, trouver le consensus, ce n'est pas forcément évident tous les jours.
Ce n'est pas forcément évident tous les jours et c'est une obligation, disons, de pouvoir dépasser, transcendanter les situations très, très inégalitaires entre les pays et de progresser pas à pas en marquant un certain nombre de points. Et ça, moi, je pense qu'au niveau de l'opinion publique en général, avec des sentiments d'une part de critique de la part d'un certain nombre d'hommes politiques qui ne veulent pas assumer un certain nombre de directives européennes qui ont été élaborées après consultation de l'ensemble des États. Et ça, c'est le premier point. Bruxelles apparaît comme une entité indépendante des États, alors qu'en fait, les structures mêmes montrent bien que les États ont leur mot à dire et que ce n'est pas parce qu'on progressera dans la construction de l'Europe que chaque État perdra sa souveraineté. C'est à chaque fois des accords qui permettent de définir ce qui est du ressort de l'État lui-même par rapport à l'ensemble des États qu'on retrouve au sein de la communauté européenne, de l'Union européenne.
Alors merci Monsieur Guy Guyot pour ces éclairages, mais il est quelque chose d'important dont il faut parler. C'est quels sont les éléments du socle européen des droits sociaux?
Oui, alors ça c'est une avancée importante, puisqu'elle a pris en compte, enfin elle prend en compte la révision de la directive des détachements avec la circulaire, la directive Bolkestein, qui avait fait beaucoup d'opposition. Donc là, il y a déjà une révision de cette directive qui, là aussi, cette révision a pour but d'éviter le dumping que font des pays étrangers en ayant des droits sociaux beaucoup plus faibles. Ça passe notamment au niveau des chauffeurs routiers. Mais il y a encore loin entre le texte lui-même et l'application effective sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un salaire minimum en Europe.
Est-il envisageable?
On peut le constater quand on regarde, il existe un certain nombre de SMIG au niveau de chaque État, mais l'écart est énorme puisqu'il va autour de 300 euros pour certains États jusqu'à 1500-1600 euros pour notamment des pays comme la France. Donc il y a un grand chemin encore à parcourir avant qu'on ait la même valeur pour le SMIC, quels que soient les États de l'Union européenne.
C'est ce qu'on trouve aussi d'ailleurs sur un autre projet, un autre programme, c'est l'aide aux jeunes pour partir faire, maintenant c'est un cadre d'Erasmus, mais pour partir dans les pays étrangers, et selon le pays dans lequel le jeune part, en fait, l'argent de poche qu'il aurait donné est différent en fonction du niveau de vie.
Voilà, tout à fait. Et là, on peut multiplier tous ces écarts, ces inégalités de traitement au niveau de chacun des secteurs. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même, même si les pas sont modestes, il y a quand même un mouvement qui va vers la convergence sociale, ce à quoi les organisations syndicales de salariés, tous pays confondus, travaillent d'une manière importante. Par contre, là, on a une force d'inertie et de freinage de la part des organisations patronales, malheureusement.
Et oui, parce qu'en plus, par exemple, si on prend le droit à la retraite, il est variable d'un pays à un autre.
Voilà, tout à fait, par exemple. Oui.
Alors, cette dimension sociale des politiques européennes ne compte-t-elle pas au-delà des salariés?
Oui, tout à fait. Alors, d'une part, il y a, vous veniez de l'aborder par rapport à la politique en direction des jeunes et avec Erasmus, qui est en développement et qui concerne d'ailleurs aussi ce processus Erasmus un certain nombre d'enseignants pour qu'ils soient à même de pouvoir renseigner et motiver les jeunes. Mais il y a également, outre l'aspect des travailleurs, les handicapés, où là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et là, ça figure au plan de travail de la Confédération européenne des syndicats.
Donc, déjà, pour les handicapés, les centres de formation des handicapés sont tous financés par l'Union européenne en partie.
Voilà, tout à fait.
Et ça, les gens ne le savent pas.
Absolument. Et c'est ça que je voulais dire aussi déjà tout à l'heure, c'est que il y a une insuffisante information vis-à-vis de l'opinion publique sur tout ce qu'apporte l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est autre chose que ce que veulent en faire l'ensemble des États. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a également les consommateurs, puisque chaque travailleur, il est aussi un consommateur. Et là encore, il y a toute une volonté de pouvoir normaliser, mettre en accord les normes, alors aussi bien dans le domaine alimentaire, par exemple, que dans le domaine de garantie d'usage. Et là, toute une réflexion qui est aujourd'hui plus que d'actualité, notamment avec plusieurs années la prise de conscience du changement climatique, de l'économie de gaspillage, de la non mise en œuvre d'une économie qui recycle les déchets, je pense plus particulièrement au plastique. Et tout cela, il y a également des groupes de travail et une réflexion qui est faite également au niveau européen. Moi-même, dans le cadre de la CFDT, dans les années 80, j'ai participé à une commission européenne d'homologation des cahiers des charges de l'agriculture biologique. Voilà, à titre de...
Ça date pas d'hier, déjà, alors.
À titre anecdotique. Et là aussi, ben, c'est effectivement, il faut beaucoup de temps pour arriver à avoir des consensus. Ça, c'est le premier point. Et puis, d'autre part, avoir des moyens pour mettre en œuvre, y compris pour ceux qui le font pas, des possibilités de sanctions quand certaines entreprises ne respectent pas du tout les normes en question.
Oui, par exemple, une norme, est-ce que tous les pays européens sont au même niveau, par exemple, sur les règles de sécurité, je pense dans les bâtiments en particulier?
Déjà.
Alors, ça peut être les bâtiments, ça peut être le nucléaire, ça peut être.
Oui. Déjà, ne serait qu'au niveau de la France, il y a aussi des, suivant les entreprises et suivant les régions, par rapport au travail au noir, et qui dit travail au noir dit forcément peu de respect des conditions de travail. Là aussi, il y a eu tout un travail de fait depuis des années, au niveau préfectoral, mais au niveau des organismes auxquels participent les organisations syndicales, comme au niveau de la formation professionnelle et au niveau des visites surprises de chantier. Là aussi, c'est quelque chose de très très important qui est à développer au niveau de l'ensemble des pays d'Europe.
Eh bien écoutez, merci pour cette série de réponses donc, que vous nous apportez à tous nos auditeurs de Radio FM+. Et vous nous proposez un morceau musical de Jean Ferrat, Mon chant est un ruisseau.
Quand le monde sera une étable comblée, quand les guerres seront finies, alors buvez mon chant comme du thé au lait dans des tasses mi-azotis. Vous, affamés d'hier, ombres maigres et dures, mon chant est un ruisseau, mon chant est une mure. Quand dans le cœur des humains fera sonner le monde comme un atelier de potier. Alors mangez mon chant dans une assiette ronde ornée d'un motif d'oignon bleu. Vous, affamés d'hier, ombres maigres et dures, mon chant est un ruisseau, mon chant est une mure. Dans ce monde incertain, comme barque qui penche, mordez dans mon champ, travailleur. Comme dans le pain blanc du matin à dents franches, le pain blanc à la fraîche odeur. Vous, affamés d'hier, ombres maigres et dures, mon champ est un ruisseau, mon champ est une mure. Ma patrie de monts et de rivières vertes, moi qui t'invoque à chaque instant. Je suis comme le coq dressant au ciel sa crête, je chante et chante tout le temps. Vous, affamés d'hier, ombres maigres et dures, mon chant est un ruisseau, mon chant est une mure. Mon chant est une mure.
Eh bien, toujours avec Monsieur Guy Guyot, donc qui fut responsable syndical et qui nous parle de cette Europe sociale et en particulier de ces syndicats européens. Alors, on a parlé un peu au niveau général, mais on va essayer de rentrer dans quelque chose de plus particulier. Parce que chaque pays est organisé de façon différente. On a des pays qui sont centralisateurs, et on a des pays, au contraire, qui donnent beaucoup plus de poids aux régions. Comment, effectivement, on peut trouver une entente entre ces deux formes d'organisation.
Bien, là justement, l'Europe, heureusement, a prévu relativement tôt de considérer les régions comme des partenaires au même titre que les États. Enfin, au même titre, pas tout à fait, puisque là, les conseils européens, il y a un poids très, très prédominant des gouvernements. Mais je voudrais rappeler que l'Union européenne, aujourd'hui, 28 États avant le départ de la Grande-Bretagne, mais aussi 276 régions. Et que il y a pris en compte la nécessité d'une politique européenne de cohésion entre les régions elles-mêmes. Et cette importance-là se traduit par le fait qu'un tiers du budget européen est consacré à cet axe-là.
Alors quand vous parlez de ça, effectivement, ça me fait penser aussi au niveau des régions, parce que des fois, il y a confusion entre régions et États. Je pense à Malte en particulier.
Oui, tout à fait. Ah, oui, oui, oui. Oui. Et puis là aussi, c'est pareil. Quoi. Entre les États, il y a, comme vous le disiez très justement, une différence d'organisation qui s'ajoute à la différence de taille, et de à la fois géographique, démographique, mais aussi, bien sûr, économique. Mais pour bien souligner que cette dimension régionale était prise en compte dès le départ, c'est que dans le traité de Rome, qui date de 57, il était déjà indiqué dans le préambule la nécessité de réduire les disparités existant entre les différentes régions de l'Europe au-delà des États.
Eh oui, c'est l'idée. C'est quand même bien l'idée de l'Union européenne, c'est que si on s'unit ensemble, c'est pour avoir les mêmes niveaux, les mêmes possibilités. Sinon, quel intérêt y aurait-il au niveau d'une Union européenne où chacun fait son truc dans son coin ? Je veux dire, je pense à la SDN, la Société des Nations en particulier, hein, entre dans les années 1920.
Voilà, et cet aspect-là prend en compte aussi les leçons de l'histoire, parce que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, elles ont été aussi causées par le fait qu'au niveau de l'Europe, ça a été déclenché au niveau européen, et qu'au niveau européen, bien sûr, il y avait des volontés hégémoniques de certains États, mais il y avait aussi des grandes disparités économiques et sociales.
Oui, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour mettre ça en place, et c'est aussi cette Europe de la paix.
Voilà, tout à fait, absolument. Et ce comité des régions a été institué par le traité de Maastricht et a mis en place le 9 mars 1994 ce comité des régions, qui est un organe de consultation des collectivités locales et régionales et qui a pour fonction de donner des avis à la Commission européenne et au Conseil. Alors, bien sûr, là, il est important que cette articulation entre régions et États puisse être améliorée, y compris dans le niveau, du point de vue de la gestion du budget européen. Hein, je rappellerai que c'était le tiers de l'ensemble du budget qui est consacré directement aux régions. La France, elle n'est pas très en pointe par rapport à la gestion directe par les régions elles-mêmes, même s'il y a eu du progrès depuis quelques temps.
Parce qu'en France, tout passait par Paris
et il y avait beaucoup de verrous au niveau de la tutelle, en quelque sorte, préfectorale dans la gestion de ces budgets. On peut espérer que ça va s'améliorer.
Ensuite, en tout cas, c'est une demande des individus. Tous ces corps intermédiaires, finalement, ils demandent que ces corps intermédiaires puissent véritablement jouer un rôle.
Jouer leur rôle qu'ils ont à jouer et qu'ils jouent de fait, en étant à la fois en proximité avec les besoins, en proximité avec les réalités de chaque région qui sont très diversifiées, y compris même à l'intérieur d'une région, comme l'Occitanie par exemple, suivant les départements, suivant les bassins d'emploi, suivant les bassins de vie, il n'y a pas le même effort dans le même domaine à faire, y compris avec la dimension subvention européenne.
Et dans ces cas-là, on tombe effectivement sur une opposition entre une Europe des nations et une Europe des régions.
Voilà, c'est pour cette raison qu'il est important de souligner le rôle de ces comités des régions. Là, je trouve aussi que les médias ne mettent pas assez en avant cet aspect-là, parce qu'il y a à partir du moment où il y a le tiers du budget, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets concrets auxquels participent les régions. Et quand je dis les régions, c'est à la fois les conseils régionaux, mais aussi les conseils économiques et sociaux régionaux, où là, les organisations syndicales et le secteur associatif sont également représentés et participent concrètement à l'élaboration des propositions.
Oui, donc c'est effectivement ce qu'on trouve aussi quand vous parlez du traitement des médias. L'Europe, dans le traitement des médias, ça représente à peine 2% du temps. C'est quand même un peu faible quand on construit une Europe et quand on va bientôt aller voter. Alors, maintenant, pouvez-vous me dire deux mots sur l'avenir de ce mouvement syndical ?
Bien, au-delà de l'avenir du mouvement syndical, c'est le mouvement de l'Europe tout entière, hein, dans ses multiples composantes, qui est en jeu. Pour le mouvement syndical, c'est un défi gigantesque, parce que les syndicats eux-mêmes sont confrontés dans pratiquement tous les pays aux questions comme le financement des organisations, la démocratie interne et la participation, les stratégies et les moyens d'action à privilégier. Et là, c'est important que contrairement à ce qui s'est quand même passé depuis plusieurs mois en France, ces organisations syndicales, au même titre que les associations, tout le mouvement associatif, ne soient pas squeezées par le gouvernement, qui puisse jouer leur rôle, et quand il y a des propositions concrètes et qui sont souvent élaborées à la demande même du gouvernement, en fait, après, le gouvernement écoute poliment et ne le prend pas en compte. Alors, on peut espérer qu'il y aura de l'amélioration, une meilleure écoute dans les jours et les semaines à venir au niveau de la France.
Alors, mais, en conclusion, quels sont les défis en cette année d'élection européenne ? Puisqu'il faut bien qu'on y pense à cette année d'élection.
Alors, on a pointé au niveau CFDT 6 grands défis. Le premier, c'est la démocratie, avec la remise en cause de la légitimité de l'Union européenne et la montée des populismes. Là, il y a tout un travail à faire, notamment pour mettre en avant tous les points positifs qu'apporte le fait d'être regroupé et ce qu'on appelle Union européenne. C'est pas seulement des technocrates qui sont parfois trop sensibles aux multinationales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la cohésion sociale et territoriale au sein de l'Union européenne, qu'on a déjà traité. Le troisième point, c'est la démographie, avec le vieillissement de la population, d'où tout le problème de la réflexion sur les retraites futures. Le quatrième, c'est la technologie, avec notamment l'aspect numérisation de l'économie. L'avant-dernier, c'est l'écologie avec le changement climatique. Et là, il y a des propositions qui ont été faites, y compris par la CFDT, avec d'autres associations et des écologistes, sur le pacte social pour la transition énergétique, qui vient d'être repris d'ailleurs par plusieurs partis candidats aux élections européennes. Donc là, on espère que ça pourra avancer d'une manière concrète.
L'écologie, c'est un truc très à la mode pour tous les partis politiques.
Voilà. Et le dernier point qui est fondamental, c'est la place dans le monde de l'Union européenne face à la montée des pays émergents et au risque de repli protectionniste, avec notamment la gestion de la politique de migration due non seulement aux aspects économiques, mais aussi au changement climatique. Et ça, c'est un enjeu de taille au niveau de notre planète tout entière.
Eh bien, écoutez, Monsieur Guy Guyot, donc merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio FM+. Et nous souhaitons une excellente journée à tous nos auditeurs.